Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'Union européenne a présenté aujourd'hui sa nouvelle stratégie industrielle. Si cela vous rappelle quelque chose, c'est normal. C'était déjà le cas en mars de l'année dernière, sauf qu'entre-temps, une pandémie mondiale est passée par là, dévoilant impitoyablement les manques européens dans plusieurs domaines dont on s'est aperçu un peu tard qu'ils sont essentiels. La santé, par exemple, avec les masques ou les composants pour les vaccins, ou les technologies avec les semi-conducteurs. Depuis des mois, on entend prononcer les mots d'autonomie stratégique industrielle, de réindustrialisation, voire parfois de relocalisation. Stratégie industrielle, après les paroles, les actes, c'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui par téléphone. Distanciation oblige. Anaïs Voigilis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au CRESAT, Université de Haute-Alsace, et co-auteur de l'ouvrage « Vers la renaissance industrielle » aux éditions Marie B. Et aussi Vincent Charlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du Centre de réflexion « La fabrique de l'industrie ». Et enfin Christian Saint-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et analyste politique, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, auteur du livre « Le libéralisme stratège contre le chaos du monde », c'est aux éditions Odile Jacob. Je le disais, c'est une lumière crue et peut-être même un petit peu humiliante, vous allez nous le dire ou pas d'ailleurs, celle du coronavirus qui a montré certaines faiblesses européennes depuis un peu plus d'un an. D'abord, Christian Saint-Étienne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ?
Ben, évidemment, et ça n'a fait qu'aggraver la situation. De fait, l'Europe a partiellement décroché depuis une quinzaine d'années, sans parler de la France qui est carrément en désindustrialisation rapide depuis une quinzaine d'années, même si on est en train de stabiliser la situation depuis deux ou trois ans, mais très difficilement. Et donc, nous sommes dans une nouvelle révolution industrielle du numérique depuis une trentaine d'années. Et c'est la Chine et ce sont les États-Unis qui dominent totalement cette révolution numérique. On connaît les GAFAM américains, on connaît les BATHX chinois. Il n'y a pas d'équivalent européen. Certes, la France décroche, mais il n'y a pas de Google allemand non plus. Voilà. Donc, on découvre aujourd'hui que non, on ne produit que 10% des 9% ou 10 ou 9 seulement % des microprocesseurs mondiaux. Stellantis vient d'annoncer ce matin ses résultats et a perdu à peu près 10% de sa production au premier trimestre par manque de microprocesseurs. Et comme vous l'avez dit en introduction, on le savait déjà avant, un certain nombre d'auteurs le dénonçaient, mais on s'est aperçu que 60 à 70% des bases qui permettent de fabriquer les médicaments qui sont produits en Europe viennent d'Inde ou de Chine. Donc, il n'y a eu aucune réflexion stratégique depuis très longtemps en Europe. Nous étions dans une évolution astratégique, c'est-à-dire sans réflexion stratégique depuis une vingtaine d'années. Là, toute la politique européenne était dominée par le principe de concurrence dans un monde totalement ouvert où tout le monde est gentil, une sorte de monde de bisounours. Et tout à coup, c'est le grand réveil, comme vous le disiez.
On va évidemment en reparler. Vincent Charlet, vous partagez cette analyse ?
Non, pas tout à fait. Oui. On aime beaucoup dire que l'Union européenne est l'idiot utile de la mondialisation quand c'est pas la France. Il y avait une stratégie qui honnêtement se défendait, c'était celle de la montée en gamme. Alors peut-être qu'effectivement les décideurs du moment ont oublié d'imaginer qu'il faudrait que l'industrie manufacturière elle aussi se rénove, se modernise et que tout ne pouvait pas passer par des investissements uniquement dans la recherche de long terme. Mais enfin, il y a un autre axe extrêmement volontariste aussi qui est celui de la transition énergétique qui va de toute façon, à un moment ou à un autre, concerner le monde entier. Il n'est pas totalement stupide de la part de l'Union européenne de chercher à prendre une longueur d'avance sur ce domaine. Donc non, on ne peut pas dire que nos dirigeants aient été plus bêtes qu'ailleurs. La crise, c'est une crise. Donc, elle révèle des difficultés, parfois aussi des angles morts. Je ne le conteste pas totalement. Mais enfin, nous n'étions pas la dernière roue du carrosse. Non.
Anaïs Voigilis, Christian Saint-Etienne parlait de désindustrialisation quasi complète de la France. Du point de vue de la géographe que vous êtes, est-ce qu'il y a des zones entières de l'Europe qui sont désindustrialisées et est-ce qu'on se porte vers d'autres zones européennes pour fabriquer les usines?
Oui, alors la désindustrialisation, on a tendance à avoir une vision un petit peu purement statistique et on oublie de préciser qu'il y a aussi eu des mouvements d'externalisation de certaines activités qui étaient avant internalisées dans des groupes industriels, notamment les activités de maintenance, etc. et dans les comptes statistiques aujourd'hui qui sont plutôt rattachés à des activités de services et non plus à l'industrie manufacturière. Bon, maintenant, il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui, le poids de l'industrie en France a diminué. On est plutôt quand même dans une phase continue de désindustrialisation, même si, comme ça a été dit, depuis 2-3 ans, on est sur une sorte de stagnation. Et cette désindustrialisation, on a tendance à toujours mettre en avant l'Asie. Or, les premiers mouvements de délocalisation d'entreprises se sont d'abord faits vers les pays d'Europe continentale et orientale, à savoir la Hongrie, la Pologne, notamment dans les secteurs de l'automobile. Maintenant, je pense qu'il faut apporter un petit peu de nuances sur certains sujets. On a beaucoup tendance à critiquer l'Union européenne. Ce qu'il faut rappeler, et je pense que c'est très important de le dire, c'est que la question industrielle, la politique industrielle n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne, mais plutôt une politique du ressort des États. Donc, à partir de là, les prises de position de l'Europe se heurtent aussi avec les stratégies nationales. Et ce qu'on regarde, si on regarde à l'échelle des 27 États membres de l'Union européenne, on se rend compte qu'il y a des stratégies très différenciées en matière industrielle. La France a plutôt fait le choix, a maintenu des politiques industrielles, c'est important de le dire, mais n'a pas eu de stratégie industrielle d'ampleur, de vision industrielle au cours des 30 ou 40 dernières années, et donc était plutôt sur ce mouvement petit à petit de désindustrialisation. A contrario, on a des pays comme l'Allemagne ou l'Italie qui ont su maintenir une base industrielle solide avec des stratégies différentes. Et après, on a aussi des pays comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque qui ont su tirer leur jeu de ce rééquilibrage mondial des activités productives.
Christian Saint-Etienne, aujourd'hui, en présentant la nouvelle stratégie industrielle européenne, le commissaire Thierry Breton, le français, donc, a parlé d'une forme de naïveté vis-à-vis de l'Asie et en particulier de la Chine. En quoi l'Europe est naïve par rapport à la Chine sur ces questions industrielles?
En fait, quand la Chine est rentrée à l'OMC en 2001, il y a un volet des obligations qui n'a pas été appliqué. Il faut se souvenir du contexte. Après le 11 septembre aux États-Unis, les Américains qui bloquaient l'entrée de la Chine à l'OMC ont tout à coup ouvert les portes, mais sans notamment obtenir un engagement de la Chine sur la question des subventions données aux entreprises. Donc ces subventions, elles sont massives. Par exemple, Huawei a obtenu de l'ordre de 10 milliards de dollars par an depuis 20 ans. C'est ce qui lui a permis de devenir le grand groupe technologique avec 90 000 chercheurs aujourd'hui. Donc La Chine a profité de ce trou dans la raquette, par exemple, pour nettoyer l'industrie allemande des panneaux voltaïques. Ces panneaux photovoltaïques, l'Allemagne était numéro un mondial il y a une quinzaine d'années. Et les Chinois, par des subventions massives de l'État, ont vendu leurs panneaux en Europe 30 à 40% de moins cher que les panneaux allemands et l'industrie allemande des panneaux a disparu. Alors ça a été le premier signal puissant parce qu'il faut aussi intégrer le fait que le leadership réel sur le plan politique a basculé dans les 20 dernières années. Il est passé de la France à l'Allemagne du fait de l'affaiblissement français. Et donc l'Allemagne, prenant une gifle sur ce sujet, a commencé à être plus attentive à ce qui se passait venant de Chine. Le deuxième gifle, ça a été quand les Chinois ont pris le contrôle du premier roboticien allemand. Et donc là, les Allemands ont commencé à se dire qu'il y avait un sérieux problème. Mais dans le même temps, comme les Allemands ont une politique très mercantiliste et qu'ils vendent énormément de produits à la Chine, ils ont du mal à choisir entre ouverture et fermeture. Néanmoins, on peut dire que dans les 18 derniers mois, il y a eu une évolution significative de la politique allemande qui commence à exiger davantage de réciprocité. Et ça, c'est clé parce que c'est pas la France qui commande à Bruxelles, hein, même si ça nous fait beaucoup de peine de le dire. C'est aujourd'hui l'Allemagne, surtout après le départ du Royaume-Uni. Et donc, quand les Allemands évoluent de manière significative sur un sujet, c'est toute l'équilibre de la politique européenne qui évolue avec elle.
Vincent Charlet, est-ce que ça veut dire que les entreprises industrielles européennes et françaises également ont besoin de davantage de protection par rapport aux géants qu'il y a à l'étranger, notamment en Asie et aux États-Unis ?
Alors, il faut toujours distinguer les deux plans de la compétition. Dans les chiffres aujourd'hui, l'essentiel de la concurrence pour les entreprises françaises, elle est intra-européenne. Et donc, je vous renvoie à ce que disait Anaïs à l'instant, c'est-à-dire que les principales inquiétudes, on va dire, ou sources de concurrence pour l'industrie française, elles se situent ailleurs en Europe. Néanmoins, au-delà de ça, quand l'Europe cherche sa place dans le monde, effectivement, il y a une question de recherche de réciprocité. Je partage tout à fait le constat sur lequel le capitalisme d'État chinois est absolument non coopératif. Et il est d'ailleurs éminemment regrettable que l'organe de régulation du commerce international ait été affaibli, y compris avec la complicité américaine, on le sait, à un moment où on avait le plus besoin de lui. Bien sûr que pour les plus grandes entreprises ou les entreprises qui exportent le plus en France et en Europe, cette question de la réciprocité est absolument clé et on ne peut que saluer le mouvement qui a été fait. Je pense qu'on peut quand même dire là ce soir que l'Union européenne a fait en gros ce qu'on attendait d'elle. Pour la plupart des entrepreneurs au quotidien, j'insiste sur le fait que 80% de leurs préoccupations sont à l'intérieur des frontières de l'Union européenne.
Anaïs Wagilis, ils ont besoin de quoi les industriels européens pour que leur activité soit favorisée? Ils ont besoin d'aide du même niveau de ce que reçoivent les entreprises chinoises ou ils ont besoin de se regrouper pour créer des géants dans certains secteurs clés? Quels sont les besoins?
C'est une question complexe. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide du même niveau que les entreprises chinoises? Je ne suis pas convaincue que ce soit la réponse à apporter. Il y a sûrement, par contre, des mécanismes à créer. C'est-à-dire, un exemple très simple que j'emploie souvent, c'est la question de la réciprocité dans l'accès aux marchés publics. L'Europe ouvre très fortement ses marchés publics à toutes les entreprises toutes les entreprises du monde. La Chine a des marchés publics plutôt fermés. Donc on a des entreprises européennes qui aujourd'hui se retrouvent en concurrence face à des entreprises qui sont en effet soit des entreprises d'État, soit subventionnées indirectement ou directement par leur État. Et donc ça crée une concurrence complètement faussée. Donc ça, par exemple, c'est un mécanisme européen qui pourrait permettre de remettre de l'équité dans les échanges. Ensuite, on impose à nos entreprises européennes des standards sociaux environnementaux très forts que beaucoup d'entreprises dans le monde ne se retrouvent pas confrontées au même niveau d'exigence de la part de leurs États. Donc on peut envisager des mécanismes pour rééquilibrer ça. C'est notamment la question qui est en débat aujourd'hui à l'échelle européenne de la taxe carbone aux frontières. Mais attention, si on va dans ce schéma-là, il faut qu'on soit prêt à avoir un rapport de force avec nos partenaires, que sont en premier lieu la Chine et les États-Unis. Et il faut aussi penser aux mécanismes que ça peut avoir sur les conséquences que ça peut avoir sur notre marché intérieur et notamment sur des questions de pouvoir d'achat. Nos entreprises, elles ont besoin qu'on remette un petit peu de l'égalité dans cette compétition mondiale. Je ne suis pas convaincue ensuite que bombarder d'aide soit forcément la solution. Là où on a besoin aussi de réflexion à l'échelle européenne, c'est sur les technologies où on va être présent demain. On sait que la Chine met beaucoup de moyens sur tout ce qui va être intelligence artificielle, mobilité de demain, donc à savoir l'hydrogène, le véhicule électrique. Et nous, on a des plans nationaux qui sont ce qu'ils sont, mais pour lesquels on ne met pas les moyens, parce qu'on ne peut pas, que ce soit humain ou financier, comme le fait la Chine ou les États-Unis dans une moindre mesure. Donc c'est ces réflexions qu'on doit mener, mais pas tomber dans une politique qui serait de donner des aides pour essayer de rééquilibrer quelque chose. Je ne pense pas que ce serait un bon signal envoyé et que ça serait les résultats, on obtiendrait les résultats qu'on souhaite.
Christian Saint-Étienne, tout ce qu'on entend depuis le début de cette émission, c'est qu'il faut orienter et peut-être aider au même niveau ou différemment, en tout cas, les entreprises européennes. Est-ce que l'autonomie stratégique industrielle dont parle Thierry Breton est compatible, et vous avez commencé à en parler, avec la culture, ou certains diraient l'idéologie européenne, qui est quand même plutôt favorable au libre-échange ? Est-ce que le fond du problème, c'est pas ça ?
D'abord, si Thierry Breton fait les déclarations qu'il a pu produire et propose avec d'ailleurs la commissaire à la concurrence des novations sur la politique numérique de l'Europe, c'est parce qu'il y a eu très récemment, dans les deux dernières années, un mouvement significatif de pensée au niveau européen sur la réciprocité. Alors, ça fait 40 ans que les spécialistes du commerce international disent que le commerce ouvert, c'est ce qui est le plus favorable au développement économique international et à l'élévation du pouvoir d'achat. Mais le commerce international, il ne fonctionne que sur une base de réciprocité. Donc, on a évoqué, par exemple, tout à l'heure, la commande publique. De facto, pour être clair, la commande publique chinoise est quasiment fermée au reste du monde et les Chinois sont admis en Europe. Ça, c'est inacceptable. Point. Donc, dans les négociations avec les Chinois, il faut simplement dire, si vous continuez de fermer la commande publique chinoise aux entreprises européennes, vous n'avez plus la possibilité de participer à la commande publique européenne. Et pour ça, il faut avoir une capacité politique et stratégique en Europe qui n'existe pas encore. Ouais. Notamment à cause de cette politique mercantiliste de l'Allemagne. Chaque fois qu'on veut mettre les points sur les i vis-à-vis des Chinois, ce sont les Allemands qui bloquent sur beaucoup de sujets. Ça a été vu à de nombreuses reprises, y compris sur le projet de traité sur les investissements entre la Chine et l'Union européenne, que Mme Merkel avait imposé au forceps dans les derniers jours de la présidence de l'Allemagne, donc à la fin décembre 2020, et qui vient d'être mis sur le refroidisseur ce matin par des annonces qui ont été faites. Si on regarde les échanges internationaux, l'ouverture c'est bien, mais sur une base de réciprocité et avec les mêmes règles pour tous. Alors vous évoquiez la question des subventions données par la Chine. La réponse n'est pas de donner des subventions en Europe, parce que ça coûtera très cher et ce n'est pas efficace. Et puis ensuite, quand on donne des subventions, c'est qu'on choisit de subventionner l'un et pas l'autre, donc c'est injuste. Mais c'est de dire aux Chinois, les entreprises que vous subventionnez, elles ne pourront plus vendre en Europe, ou alors il y aura des taxes compensatoires correspondant au montant des subventions que vous avez accordées.
Un peu comme la taxe carbone aux frontières qu'évoquait Anaïs Voigilis.
Exactement. Mmh. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut généraliser. D'abord, il faut une taxe carbone. Alors effectivement, il est vraisemblable qu'on arrivera à la mettre en place uniquement si, par exemple, on crée un marché du carbone de l'Atlantique qui réunissait l'Europe et les États-Unis, parce qu'on ne pourra pas faire la taxe carbone contre les États-Unis, sachant que les Chinois sont opposés. Il faut d'ailleurs faire un système où on dit aux Chinois, si vous appliquez la taxe carbone, vous pourrez rentrer dans l'alliance pour une croissance propre, si on crée une sorte d'alliance pour la croissance propre. Et surtout, ce qui manque en Europe, c'est la politique, les investissements nécessaires dans l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, l'espace. Et quand on compare les budgets investis en Europe sur ces sujets, même si on fait la somme de ce qui est investi par la Commission européenne sur le budget européen, qui de sont des sommes faibles, plus la somme des budgets nationaux sur ces sujets, et qu'on compare aux mêmes dépenses sur l'intelligence artificielle ou l'espace réalisé par les Américains et les Chinois, on n'est pas très loin de la vérité quand on dit qu'il manque toujours un zéro. Mmh. C'est-à-dire que là où les Américains ou les Chinois mettent 50 milliards, on met 5 milliards en Europe. Alors, on est très en retard sur les politiques offensives dans la transformation de l'économie mondiale.
Alors, vous parlez des secteurs porteurs, des secteurs d'avenir. Vincent Charlet, Vincent Charlet, apparemment, on l'a perdu, donc on va essayer de le retrouver un petit peu plus tard. Non, c'est Anaïs Voigelis qu'on a perdu, en fait. Donc, Vincent Charlet, en mars 2020, la Commission avait identifié plusieurs secteurs clés, souvent liés aux énergies renouvelables ou aux transports, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que les priorités d'il y a un peu plus d'un an sont toujours valables après ce qu'on vient de vivre ?
Alors, écoutez, mon avis personnel, mais je sais qu'il est partagé largement, c'est que la transition écologique, c'est l'affaire d'un siècle, hein. Largement. Donc oui, je pense que ce qui a été écrit il y a 2 ans, il y a 10 ans, restera valable longtemps, que ce soit pour nos emplois, les activités créatrices de valeur et même notre façon de vivre. C'est bien plus que le Covid en réalité. Voilà, le grand défi qui est devant nous et il n'est pas encore résolu. Il est vécu très variablement d'un secteur à l'autre. Pour certains secteurs d'activité, c'est un moyen sujet. Pour d'autres, c'est absolument vital. Et pour d'autres encore, c'est une transition technologique qui est presque à portée de main. Bref, c'est vraiment une lame de fond. Et on n'a pas fini d'en étudier ou d'en anticiper tous les effets économiques. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute sur le fait que, pour rebondir sur ce que disait Christian Sernézène tout à l'heure, il faut à l'évidence être ambitieux, aventureux même, dans la préparation de l'avenir, parce que la simple gouvernance par les prix ne suffira pas. Il faut redonner toute sa place au progrès technique en la matière. Je me permets d'ajouter quelque chose à ce qui était dit tout à l'heure.
Allez-y, bien sûr, oui.
Sur justement l'usage des subventions ou la naïveté peut-être d'un modèle qui serait trop mercantiliste. Sur le plan des relations, on va dire, trilatérales, Union européenne, États-Unis-Chine, c'est absolument vrai. Mais au sein de l'Union européenne ou des États-Unis, je persiste à penser quand même que, une fois encore, l'Union européenne n'était pas totalement naïve. C'est-à-dire que si vous observez ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années qui viennent de s'écouler, avec en gros un relâchement de l'antitrust, la théorie s'est trouvée vérifiée à peu près sur tous les points. C'est-à-dire que les actionnaires ont accru leurs dividendes, les entreprises ont arrêté d'innover, le pouvoir d'achat des populations n'a pas augmenté et les salaires ont stagné. Donc, maintenir un certain niveau de compétitivité intra-zone sur une base équitable, je suis tout à fait d'accord, a quand même fait la preuve de son efficacité. Et il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Anaïs Voigelis, on vous a retrouvé parmi les nouvelles priorités. Il y a la santé, bien sûr, mais aussi les semi-conducteurs. On a besoin de puces électroniques pour répondre à la demande d'outils technologiques. On parlait tout à l'heure des automobiles de Stellantis, mais aussi des outils liés au télétravail. La demande a explosé. C'est l'Asie, en particulier la Corée du Sud et Taïwan, qui sont devant dans son secteur. On disait tout à l'heure que l'Europe était très en retard, qu'il y avait de très nombreuses années de retard. Est-ce que annoncer que ça devient une priorité, ça permet de rattraper ce retard qui est quand même très important. Est-ce qu'on peut le rattraper tout simplement sur ce secteur par rapport à l'Asie et par rapport aux États-Unis ?
Alors, ça va être très très compliqué parce que l'industrie des semi-conducteurs a la particularité d'être une industrie extrêmement capitalistique avec des investissements dans les usines qui sont énormes par rapport à d'autres industries. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'on a des industriels en Europe qui produisent des semi-conducteurs et on a aussi des technologies clés dans la production des semi-conducteurs qui sont détenues par des entreprises européennes. Donc, c'est possible de rattraper le retard, mais ça va demander des investissements colossaux. Il y a un retard technologique qui va être difficile à rattraper, hein, notamment sur les puces de très petite taille où aucune entreprise européenne aujourd'hui est capable de le faire. La stratégie de Thierry Breton qui est éventuellement de faire venir sur le sol européen des entreprises étrangères est peut-être un moyen de réaliser ce bond technologique. Hein. Pour rappel, la Chine, pour réaliser des bonds technologiques, à un moment, a fait l'acquisition d'entreprises étrangères, notamment dans le domaine de l'automobile. Donc on pourrait très bien envisager peut-être de faire ce type d'acquisition ou faire venir ce type de technologie sur le sol européen. Il y a aussi une autre chose dont il faut avoir conscience en matière de semi-conducteurs, c'est qu'aujourd'hui on met beaucoup en avant les arrêts que la pénurie produit dans le domaine de l'automobile. Mais on a eu une initiative à la fin des années 70 avec Valéry Giscard d'Estaing, pour faire produire des semi-conducteurs en Europe, qui a donné naissance à ST Microelectronics notamment.
Le plan calcul, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque.
Et ça a été un échec parce que faute de demande suffisante, ce qu'il faut se réfléchir quand on... En fait, le problème du semi-conducteur n'est pas tant le semi-conducteur, c'est tout ce qui se passe en amont et en aval de cette production. Et donc, qui oblige à avoir une réflexion en termes d'écosystème. Comment on s'approvisionne pour produire des semi-conducteurs et quels sont nos débouchés? Et le gros des débouchés reste l'industrie de l'électronique qui est très peu présente aujourd'hui en Europe. Donc la réponse, elle n'est pas si simple. Et la réponse, elle est politique parce qu'on est face à cette crise, mais elle va demander un peu de vision stratégique et un petit peu d'ingénierie. Donc au-delà des mots, je crois qu'il va falloir attendre de voir ce qui se passe dans les actes et comment les industriels européens se mettent en mouvement pour répondre à cette question.
Christian Saint-Etienne, on le disait tout à l'heure, par rapport au premier plan d'il y a un peu plus d'un an, il y a des secteurs entiers, notamment on pense au secteur de la santé hein, qui nous a fait très mal en Europe depuis un peu plus d'un an, du point de vue industriel, qui avait été oublié. Est-ce qu'il y a des secteurs dans ce nouveau plan qui a été présenté aujourd'hui qui, au même titre que la santé, ont été un petit peu oubliés ou est-ce qu'on a ratissé suffisamment large?
On veut se guider dans cette réflexion, le mieux c'est de partir des documents stratégiques qui sont publiés régulièrement aux États-Unis. Tous les 5 à 7 ans, les présidents américains réunissent des commissions qui publient les orientations stratégiques des États-Unis sur le plan économique et civil. Et sur la base stratégique américaine, il y a 5 domaines privilégiés depuis très longtemps. Alors, en dehors du civil, il y a la défense, il y a la finance, la pharmacie, tout le système énergétique et maintenant toute la production numérique. Donc, ce sont les 5 secteurs que les Américains considèrent comme vitaux, au sens où la production doit être essentiellement sur le territoire américain, parce qu'en cas de conflit, on ne pourrait plus importer. Alors, l'idée d'un conflit mondial qui conduirait à un moment donné à des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, c'est quelque chose qui est totalement en dehors des livres économiques. On considère que ça sera ouvert indéfiniment. Ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que justement, quand il y a des crises, eh bien, les chaînes s'arrêtent et les pays se priorisent eux-mêmes. On a vu que, par exemple, les Américains ont gardé toute leur production de vaccins. L'Europe, étant le seul grand acteur mondial à continuer d'exporter de manière massive des vaccins alors qu'elle avait du mal à vacciner sa propre population. Mais donc, ces 5 domaines sont absolument fondamentaux dans la pensée stratégique américaine et d'ailleurs chinoise. Et effectivement, pour ce qui est de l'Europe, on est trop faible sur ces domaines-là. Alors, on a choisi d'accélérer sur la transition numérique, ce qui est une excellente chose. Mais la transition numérique, elle va exiger aussi un renforcement de la finance et un renforcement sur le plan du numérique. Mais le grand déficit en Europe, c'est clairement sur le plan de la sécurité collective et de la défense, où avec le départ des Anglais, on a perdu un acteur significatif. La France reste un acteur significatif en termes de défense, mais nos armées sont quand même sous-alimentées en crédit depuis longtemps. Et on a d'énormes déficiences sur le plan des matériels et des capacités d'action. Donc, au fond, l'Europe s'est toujours construite en temps de paix et a toujours évolué comme si le monde ouvert resterait indéfiniment ouvert. Mais pour conclure, la grande incertitude des 20 prochaines années, c'est quelle sera la conséquence du conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale et dans quelle mesure ça va nous impacter en Europe. C'est pour cela que, tout en restant ouvert et tout en restant ciblé, il faut qu'on on avance vers une plus grande autonomie stratégique. Par exemple, je prends...
Je crois qu'il va falloir vous arrêter là, Christian Saint-Etienne, parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci à nos autres interlocuteurs, Vincent Charlet et Anaïs Voigilis. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Pierre Poins. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous. Du 19 au 20...